Exégèse.
Vous vous souvenez du tournant des années 2000, de l'effervescence, de la ferveur qu'il y avait à attendre comme ça le premier changement de millénaire que l'humanité allait consciemment vivre tous ensemble ? Si vous en avez le souvenir, vous avez peut-être en mémoire que la fête fut de courte durée. En 2001, les États-Unis subissaient le plus lourd attentat du monde moderne. Les ruines étaient à peine éteintes que déjà, presque immédiatement, le pays de Bush déclarait la guerre à l'Afghanistan pour s'enfoncer dans un conflit long de 20 ans. En 2003, une coalition toujours menée par les États-Unis envahissait l'Irak et renversait Saddam Hussein. Le tournant des années 2000 en Occident, c'est donc tout ça à la fois. Une effervescence, une insouciance presque, quelques années après la chute de l'URSS, mais se rapidement balayée par le retour de l'interventionnisme états-unien. Ce sont des années marquées entre autres par le terrorisme en Occident, par les progrès d'une surveillance généralisée et par les inquiétudes mondialisées. Mais c'est aussi le développement d'Internet et des réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui et de nouvelles technologies. En clair, le monde s'inquiétait et se digitalisait. Et en musique, ce contexte quelque peu anxiogène s'est incarné dans plusieurs albums. Les années 2000, c'est la sortie d'American Idiot par Green Day en 2007. C'est le moment où Muse réutilise 1984 d'Orwell dans The Resistance en 2009. Et c'est donc tout ça à la fois. Mais avant même tout ça, un autre groupe a teinté sa musique de ce climat politique et géopolitique pessimiste, tout en préparant la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère. Ce groupe, c'est Radiohead. Et cet album, c'est Hail to the Fifth. Pour en faire l'exégèse aujourd'hui, je ne suis cependant pas seul. J'ai avec moi Clara Esclatine, qui m'a apporté ses lumières sur ce groupe qu'elle connaît bien, même mieux que moi.
Radiohead, c'est d'abord un groupe nommé On a Friday et formé en 1982, soit 9 ans avant la sortie de leur premier album, Pablo Honey. Le groupe, composé de 5 musiciens, Tom York, Ed O'Brien, Colin Greenwood, Johnny Greenwood et Phil Selway, n'aura de cesse d'expérimenter différents styles et d'inscrire leurs explorations dans le temps long. Pop rock avec The Bends, pop électro avec Key Day et Amnesia. On les classe plus largement dans la grande bannière un peu fourre-tout du rock alternatif.
Tout de suite, pour vous présenter cet album, on commence par l'introduction, 2 plus 2 égale 5 en français, un des préceptes évidemment très connus du roman 1984 de George Orwell.
Tracks, sandbags.
c'était 2 plus 2 égale 5 en français, l'introduction reprenant la phrase de 1984 d'Orwell qui ouvre Hell to the Fifth, l'album de Radiohead dont nous faisons l'exégèse aujourd'hui avec Clara Esclatine. Et on l'a dit juste avant d'écouter ce morceau, mais Hell to the Fifth, c'est un album qui est teinté de politique que sort Radiohead en 2003. Et dès la cover, le groupe met en scène la publicité et la propagande qui est omniprésente dans nos sociétés contemporaines. Et bon, jusque-là, c'est rien d'original, puisque depuis les années 1960, évidemment, ce genre de propos sont assez courants dans l'art. Mais en vérité, le titre, Hell to the Fifth, est plus précis et désigne par son nom, littéralement gloire au voleur, l'hymne présidentiel des États-Unis, Hell to the Chief, gloire au chef. Là déjà, le parallèle entre les deux ne peut pas être plus clair. Surtout, le nom de l'album rappelle également l'expression utilisée par les sympathisants démocrates pour saluer ironiquement la victoire de George W. Bush lors de l'élection présidentielle américaine en 2000. De fait, l'investiture, qui a été acquise grâce à la majorité des grands électeurs, n'avait pas la majorité des voix sur l'ensemble du pays, comme ça arrive parfois aux États-Unis. Attention tout de même à ne pas lire cet album comme un simple disque anti-Bush. C'est ce qu'énonçait d'ailleurs Thom Yorke dans une interview au magazine Spin à la sortie de l'album. « Je trouvais assez superficiel, dit-il, que le nom de notre album ait été uniquement motivé par l'élection américaine. » En vérité, la connotation politique du disque, elle est assez large et elle convoque des éléments très divers. En témoigne le premier morceau qu'on vient d'écouter donc, 2 plus 2 égale 5, qui reprend explicitement une des idées de la propagande qu'on trouve dans 1984. C'est l'idée qu'avec suffisamment d'endoctrinement, on pourrait conditionner le peuple à croire tout, y compris que 2 et 2 font 5. De façon plus diffuse, c'est Thom Yorke qui développe ses inquiétudes sur le monde à venir à travers ses paroles. On le voit justement anxieux de la difficulté des individus à se connecter entre eux, de l'irresponsabilité des dirigeants politiques et économiques et des ravages du capitalisme. Évidemment, Hell to the Fifth n'a rien d'un manifeste purement politique, et ce serait tout à fait incorrect de le considérer ainsi. Mais c'est un disque qui, au tournant des années 2000, exprime pleinement ce que bon nombre d'artistes et de citoyens ont pu ressentir face aux crises politiques. Un doute, une angoisse, une incertitude, une incompréhension. Mais au-delà de cette dimension politique de l'album, d'autres éléments méritent évidemment qu'on s'y attarde, des éléments éminemment musicaux qui illustrent ce qu'est le style, si on peut parler ainsi, de Radiohead. Mais ça sera juste après, avec Clara, juste après donc Backdrift, quatrième tract de cet album.
Exégèse. Well, C'était donc Backdrifts, quatrième track de Hail to the Thief, sixième album de Radiohead. On l'a entendu, ce morceau, il a une ADN profondément rock. Ce qui en vérité pouvait étonner les femmes du groupe à la sortie de l'album en 2003. Les étonner parce qu'au moment de la sortie du disque, Radiohead ressort de deux albums plutôt électroniques, Kid A et Amnesia. Mais en réalité, Backdrifts est à l'image de l'album. C'est un condensé des différentes palettes musicales du groupe. Parce que ce projet, c'est un peu une synthèse des cinq premiers albums de la formation. On y retrouve les éléments plus électroniques, ambiants, les boucles par exemple d'Amnesia et de Kid A. On y voit aussi un peu l'ambiance de Ok Computer, y compris dans les propos politiques et sociaux tenus. Mais avec ce projet, Radiohead revient aussi à son ADN historique rock. Ce pourquoi il était connu avec ses deux premiers albums, l'oubliable Pablo Honey et le très apprécié The Bends. Et quand on lit ou on écoute les analyses des critiques et des fans, par exemple, on voit bien qu'ils sont nombreux et nombreuses à essayer de repérer ce qui, dans tel ou tel morceau, pourrait appartenir à un album précédent du groupe. Ça ne veut pas dire que cet album, c'est un copier-coller des projets précédents, loin de là, mais c'est certain qu'à son écoute, certains auditeurs ou certaines auditrices ont pu avoir l'impression qu'il s'agissait d'un album juste de bilan, de synthèse. Pour cela, on vous laisse seul juge. Ce qui est certain, en revanche, c'est que pour enregistrer ce projet, Radiohead a choisi une autre méthode de travail, plus directe, plus instinctive. Plutôt que de s'acharner sur chaque morceau quitte à ne jamais les finir, comme c'était leur coutume auparavant. En effet, à la différence de Kid A et Amnesiac, pour lesquels l'enregistrement avait été laborieux du fait que de la volonté du groupe de creuser vraiment chaque aspect de la musique pour chaque chanson, Thom Yorke a déclaré avoir laissé plus le groupe aller à l'instinct et à l'impulsion du moment, sans trop chercher à réfléchir. Le rendement d'enregistrement était en effet proche d'une chanson par jour, et explique un enregistrement du disque en 2 semaines environ. Un disque politique, un disque somme, un disque de synthèse et de retour au rock. Un disque plus instinctif et plus impulsif. C'est donc tout ça. Hail to the Thief. Et vous allez le voir, ce disque joue même un rôle singulier dans la discographie de Radiohead, qui confirme l'idée qu'il s'agit d'un tournant, tant dans la décennie des années 2000 que dans une nouvelle ère de leur création musicale. Pour ceux ayant écouté l'exégèse d'il y a 2 semaines sur In Rainbows, vous voyez peut-être déjà de quoi je veux parler. Pour les autres, vous allez comprendre dans un instant, juste après Myxomatosis, un nom de morceau assez étrange qui fait référence à une maladie mortelle de certains lapins, dont les lapins de Garenne justement.
Exégèse. To shut up.
c'était myxomatosis, un nom aussi difficile à prononcer qu'étrange, derrière lequel se cache une maladie touchant les lapins et pouvant être mortelle. De quoi confirmer le caractère anxiogène, inquiétant, de ce disque de Radiohead. J'en parlais juste avant, mais ce projet est une charnière de la discographie du groupe. En plus d'illustrer un certain tournant dans les thématiques du rock des années 2000, avec la critique des guerres des États-Unis, la peur du terrorisme, la dénonciation du climat anxiogène mondial, il est un moment de changement pour Radiohead. C'est en effet le moment où leur contrat pour 6 albums avec EMI, leur maison de disques, s'achevait. Difficile de dire si c'est pour cela qu'ils avaient changé leur méthode de travail afin d'enregistrer le disque au plus vite pour en finir, comme ça se voit souvent dans l'industrie. Toujours est-il que Radiohead était plus que ravi d'en finir avec leur contrat et avec les majors, dont ils ont dit leur détestation et se sont tournés vers l'indépendance pour leur disque suivant. C'est une trajectoire évidemment classique dans l'industrie musicale et dans le rock spécifiquement. Le petit groupe qui signe chez une grande maison d'édition, qui grossit et grandit, et souhaite ensuite s'affranchir de sa major. Et la suite de l'histoire, si vous avez écouté l'émission d'il y a 2 semaines, ou que vous connaissez le groupe, vous savez déjà ce que c'est. Radiohead sortiront In Rainbows en 2007, en pur indépendant et avec une sortie d'abord numérique sur leur site internet. Ce qui est certain, c'est que Hail to the Thief incarne donc une charnière, une transition franche dans leur discographie. Dernier album de leur contrat avec EMI, ils résument, illustrent et synthétisent leurs 5 premiers opus et leur laissent la place pour la suite.
C'était donc l'exégèse de Hail to the Thief de Radiohead. Et pour ceux ayant aimé cette leçon d'esthétique, on se retrouve dans 2 semaines, même endroit, même heure. Pour ceux, au contraire, ne l'ayant pas trouvé à leur goût, pas d'inquiétude. On se rattrapera, et je me rattraperai en solo cette fois-ci dans 2 semaines, même endroit, même heure. Merci à tous, c'était Romain Maillot avec Clara Esclatine.
Exégèse.
Dragging out your window, dragging out the dead, singing a mess. She snakes and let us flip the lid. I pops the crack and snaps you in the head, snaps you in the neck, kicks you in the teeth. Steel toe caps, takes all your credit cards. Get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face. Dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face. Take it with the love it's given, take it with a pinch of salt, take it to the tax man. Let me back, let me back, I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call a doctor, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside. I keep the world from the door. It calls me up, calls me on the phone, tells me all the ways that he's gonna mess me up. Steal all my children if I don't pay a ransom. I'll never see him again if I squeal to the cops.
Oh,
Bon alors maintenant qu'on a pu étudier un peu en détail, voilà ce tournant, ce grand tournant, cette charnière dans la carrière et dans la discographie de Radiohead. Moi j'avais une question, c'est comment t'as découvert Radiohead, quels albums tu préfères, qu'est-ce que tu penses de ce, voilà, de ce retour sur cette discographie qui est à la fois assez ample, assez dense et en même temps qui ne contient pas tant d'albums puisque souvent c'est des albums qui sont assez espacés dans le temps. Qu'est-ce que t'en penses toi maintenant ?
Alors déjà, pour revenir sur ma découverte de Radiohead, je me souviens que j'avais découvert le groupe quand je suis allée dans un disquaire à Paris, quand j'avais 13 ans, et je suis tombée sur la pochette de The Bends, et je l'ai achetée, et j'ai tout de suite adoré l'ambiance et l'univers qui se dégageait de l'album, et c'est vraiment une écoute intensive pendant l'année qui m'a traversée et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à aborder ce sujet avec toi. Et je pense que c'est un rapport assez charnel, comme on le disait dans la première émission, que j'entretiens avec ce groupe. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes.
Bah, et c'est intéressant parce que moi, pour le coup, c'était aussi ça qui était pertinent dans le fait de mélanger nos visions. C'est que moi, j'ai commencé Radiohead par le dernier album en date, Moonshaped quelque chose là. Et parce que c'était pas du tout un groupe que je connaissais très bien au lycée ou au collège quand c'est sorti. Au lycée, je pense. Et du coup, j'ai commencé par la fin et par le moment où c'est le plus ambiant, électronique et le moins rock en fait. Ouais. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ces deux albums là, c'est que tu vois vraiment quand même une sorte de, à la fois c'est une transition et en même temps en fait tu sens que le travail a été commencé avant que sur Kid A, sur Amnesia, qu'ils ont vraiment travaillé ce truc de d'être très électro, d'être un groupe électro quasiment, enfin j'exagère à peine quoi. Et à l'inverse après et avant ces albums là avant cette charnière, tu retrouves un peu plus de rock et du coup je trouve que c'est marrant parce qu'en fait tu vois vraiment des méthodes de travail qui sont très différentes en fonction des albums qu'on a étudiés. Tu vois des sujets qui sont, eux, assez proches. Du coup, il y a tout un truc comme ça. C'est intéressant parce que c'est à la fois une leçon d'esthétique d'étudier Radiohead, je trouve, parce que bah, c'est super, c'est bien foutu, c'est ingénieux, ça invente des choses. Et c'est une leçon sur les méthodes de travail des artistes, quoi. Tu vois qu'il y a des albums que tu prépares avec passion, intensité, et ça veut pas dire que c'est les meilleurs de ta discographie. Et tu vois qu'il y a des choses que tu fais de manière beaucoup plus instinctive, et ça produit des choses intéressantes aussi, quoi.
Ouais.
Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, chez les fans, c'est qu'il y a clairement leur préféré. Je sais pas si t'es d'accord, mais souvent, on parle de OK Computer, de Kid A, de In Rainbows. Est-ce que toi, c'est tes préférés ? Est-ce qu'il y en a d'autres que t'aimes bien ? C'est quoi ton rapport à la discographie complète, quoi ?
In Rainbows a été tellement marquant que je pense que ça fera toujours un peu partie de ma discographie personnelle. Et The Bends, parce que ça a été vraiment une première entrée. Et je le réécoute encore aujourd'hui avec grand plaisir.
Et est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à écouter OK Computer ou c'est un disque qu'on a trop entendu ?
Non, je le réécoute plus franchement, mais je sais que c'est un très bon album d'adolescence.
Ouais, c'est un peu le défaut de cet album. C'est à la fois super, c'est bien foutu. Et en même temps, comme beaucoup de groupes, les pubs, les médias, les séries. Moi, je me souviens que Exit Music for a Film, qui est à la fin de OK Computer, c'était dans Black Mirror. Et du coup, c'est compliqué ce rapport qu'on peut avoir avec la pub, avec les séries, les films, parce qu'à la fois, ils prennent la musique, ils l'embellissent, et en même temps, t'as plus trop envie d'écouter.
Et pour le coup, Daria, la série animée télévisée, est une très bonne introduction pour Radiohead parce que c'est toujours un plaisir à regarder aujourd'hui et ça dénature absolument pas les morceaux. Donc voilà, petite reco.
Et on va vous laisser sur cette recommandation. Écoutez Radiohead, écoutez quasiment tout est super en vrai, à part Pablo Honey que les fans n'aiment pas et qui est un peu brouillon. Et il y en a un autre justement un peu au milieu de la carrière qui a un ventre mou, mais sinon tous les albums valent le coup. C'est ce qu'on a essayé de montrer justement avec ces deux albums pour Hell to the Fifth, en tout cas qui n'est pas parfait, mais où il y a toujours des choses intéressantes à aller piocher. Voilà, merci à vous d'avoir écouté.
Merci.